Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. La saison nationale de basketball entre dans sa phase décisive avec le début des playoffs. L'occasion de se pencher sur la mondialisation encore accrue d'un sport spectacle aux États-Unis, la NBA bien sûr. À l'inverse, en Suisse, la popularité du basket reste confinée, surtout à la Romandie. Le basket helvétique peine à étendre son influence. La base de la pyramide non plus n'est pas très large, même si des clubs travaillent pour la relève, on en parle.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir, quel contraste hein, entre le championnat nord-américain de basketball, la NBA, et le championnat helvétique, deux mondes totalement différents. Un contraste peut-être bien moins marqué, par exemple, au niveau du hockey sur glace entre la NHL, la Ligue professionnelle nord-américaine et le championnat de Suisse. Ce n'est évidemment pas nouveau. Yves Landonneau, bonsoir.
Bonsoir Marcel.
Un petit mot, hein, vous êtes un passionné, vous n'êtes pas le seul de la NBA, pour quelle raison?
Alors bon, comme beaucoup de gens des années 80, j'ai grandi avec la Dream Team de 1992 qui était venue à Barcelone, Magic, Jordan, Patrick Ewing et tout ça. Après, j'ai joué au basket, notamment avec Thabo Sefolosha. Puis, quand il a été drafté au NBA, ben là, tout d'un coup, ça a été une révélation pour moi. Je dois suivre ce sport. Même un Suisse peut y être. Donc voilà.
Yves Landonneau, vous êtes intéressable sur le sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais évoquer les efforts fournis aux Suisses à l'échelon inférieur pour mettre en valeur la relève helvétique. Et à ce propos, nous avons au téléphone André Prémandier, porte-parole d'Union Neuchâtel. Bonsoir.
Bonsoir.
Un petit mot, André Prémandier. Tout d'abord, qu'est-ce qui va se passer ce week-end à la salle de la Riveraine à Neuchâtel?
Ce week-end, événement particulier avec le Final Four de Première Ligue, puisque nous avons notre équipe qui a été invaincue durant tout le championnat, régulier avec 22 matchs, ainsi que 4 matchs de play-off, toujours invaincue. Et demain, c'est des choses sérieuses, puisqu'il y a une demi-finale qui est agendée à 18h en fin de journée. Et avant, il y aura la première demi-finale à 15h15 entre Haro et Lugano.
Oui, alors à 18h, la deuxième demi-finale, c'est entre la relève d'Union Neuchâtel et Val-de-Rue Basket. La relève d'Union Neuchâtel, c'est les M23 qui pourraient être promus en Ligue B. A priori, l'ascension n'est pas forcément une finalité.
Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, on a 5 joueurs qui font partie de l'effectif de la Liga et de la Première Ligue, qui, à notre avis, sont gentiment mûrs pour jouer au niveau supérieur. Donc en avant ces 5 joueurs, l'équipe forcément se retrouverait un peu affaiblie. Et ça veut dire qu'il faudrait de nouveau rallonger le contingent de bons jeunes pour jouer en Ligue B. Et le niveau de Ligue B n'est pas très très différent de celui de Première Ligue en fait.
André Prébandier, il y a quand même cette envie de s'investir pour la relève, pour la jeunesse.
Alors oui, il y a le mouvement jeunesse à l'Union Neuchâtel qui est d'environ 200 jeunes. On a cette année exceptionnellement 3 entraîneurs pros, dont un du centre de promotion des espoirs et qui a même un entraîneur qui sera à la Coupe du Monde de basket, comme vous avez pu le lire aujourd'hui dans la presse locale. Ensuite, il y a Mitar Timunovic qui s'entraîne avec les U23. Et finalement, Mehdi Mari qui connaît aussi très bien le mouvement des jeunes puisqu'il a été l'instigateur de l'académie à Fribourg Olympique.
André Pomondier, merci beaucoup. Hein, le Final Four de Première Ligue, c'est à Neuchâtel ce week-end avec samedi sur le coup de 18h, vous l'avez dit, la demi-finale Val-d'Ure Basket, Union Neuchâtel, M23. Et on se retourne à nouveau vers Yves Landonneau. Yves, la NBA, la Ligue professionnelle nord-américaine de basketball, c'est un autre monde, hein, c'est une autre planète. La NBA,
c'est pas les mêmes moyens non plus. Hein.
Ouais, c'est pas les mêmes moyens non plus, ça c'est sûr. C'est une des 4 franchises majeures hein, du continent avec le baseball, le football américain et le hockey sur glace. La saison régulière de NBA compte 82 matchs, c'est énorme. 82 matchs qui ont attiré 18 000 spectateurs de moyenne par rencontre. On est maintenant dans les playoffs. Vous m'avez dit la NBA qui tend de plus en plus à s'ouvrir aux joueurs non américains. Ce n'est pas vraiment nouveau, non?
Alors, ce n'est pas vraiment nouveau, mais on a quand même passé un cap en ce qui concerne la qualité de jeu et les performances des Européens. Si vous voulez, au début des années 90, le premier Français qui a mis les pieds en NBA, il s'appelle Tariq Abdul-Wahd, personne ne le connaît. Pourtant, il a ouvert une porte, il a eu un petit rôle au NBA. Il y avait aussi l'Allemand Detlef Schrempf et tout ça, qui a réussi quand même un rôle. Et puis tout d'un coup, il y a eu l'arrivée de Dirk Nowitzki, Tony Parker. Ces gens-là qui tout d'un coup ont montré, eh les gars, on peut jouer à votre niveau, on peut être fort. Dirk Nowitzki a révolutionné le jeu. Un premier gars de 2m13 qui shoote à 3 points avec des pourcentages absolument ahurissants. Et ces gars-là ont montré aux Américains, on existe. Ne nous sous-estimez pas, venez nous regarder. Puis à partir de Dirk Nowitzki et Tony Parker, notamment aussi Thabo Sefolosha. Thabo Sefolosha, il a été drafté en 13e position. C'est super haut quand on regarde la draft, la loterie pour le basket. Donc ils ont commencé à venir en Europe. Ils ont aussi fait ce qu'on appelle des pics foireux. Ça veut dire qu'ils ont sélectionné des Européens, mais ça n'a pas du tout marché. Mais au final, ils font confiance de plus en plus. Et ils remarquent que maintenant, oui, le basket, ça se fait aussi avec des Européens, et aussi avec des Canadiens, aussi avec des Australiens, vu qu'ils peuvent peser sur le jeu réellement.
Et aussi avec des Africains.
Et aussi avec l'Afrique. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait super plaisir. Alors, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Il a fallu qu'un joueur africain du nom de Dikembe Mutombo débarque en NBA, devienne un joueur aussi très important, hein, qui sera sûrement au Hall of Fame un jour, hein, super défenseur, et qui a mis ses propres moyens pour aller faire des camps en Afrique, parce qu'il y a des physiques. Faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. En Afrique, les gens sont grands, surtout quand on va dans cette partie-là de l'Afrique, hein, le Congo, le Cameroun, tout ça. C'est des gens qui sont souvent massifs, grands, puissants, endurants. Donc, tout ce que cherche la NBA au final. Et puis, des camps en amenant d'autres, la NBA a reconnu aussi que ces joueurs africains pouvaient amener quelque chose, même si au départ on les prenait surtout pour leur qualité de défenseur. Mais maintenant, avec les moyens qui sont mis en place, avec la NBA qui injecte de l'argent pour leur donner des moyens d'avoir des salles et tout ça, on commence à avoir des joueurs vraiment dominants. Et là, aujourd'hui, je peux dire, dans les 5 meilleurs joueurs actuellement NBA, il y a un Camerounais. Ouais.
Yves, contrairement au caisse glace où véritablement on a un championnat de Suisse qui est à la hauteur, en basket, c'est pas tout à fait le cas. Il y a vraiment une dimension différente. C'est un autre monde, c'est une autre planète.
C'est une autre planète, mais il faut pas oublier déjà que ça a été inventé là-bas. C'était inventé là-bas. En même temps, on pourrait aussi se moquer parce que New York, ça fait longtemps qu'ils ont des résultats calamiteux et le basket vient de New York. Donc après, où c'est que ça va se jouer le mieux, je peux pas le dire. Mais c'est que là-bas, il y a une vraie culture avec ça. J'y suis allé plusieurs fois aux États-Unis et quand il y a des matchs, tout le monde regarde. Tout le monde regarde et même les gens qui n'y connaissent pas plus, ils regardent. C'est en fond quand on va dans un bar ou comme ça. Ça fait partie de cette culture-là. Et puis après, faut dire aussi la réalité, c'est que c'est super bien payé. Les salaires des joueurs NBA, si vous saviez, est-ce que vous savez le salaire de Clint Capella?
Je crois qu'on approche les 20 millions.
Oui, on n'est pas loin des... en tout cas, dans les premières années, on est à 15 millions par année. Par année, hein. Donc là, quand il sera dans 4 ans, il touchera 20 millions. Donc forcément, ça motive. Hein.
Alors ça motive, je crois même que c'est un des sportifs, si ce n'est mieux payé, si ce n'est le mieux payé. Mais enfin, on n'a pas reconsulté les statistiques. Quoi qu'il en soit, vous parlez de l'émergence de l'Afrique, qui est une réalité. On voit donc ce basket grandir encore en NBA. En Suisse, on ne perçoit pas cette évolution.
Alors déjà, vous l'avez dit en début d'émission, c'est très cantonné à la Romandie, enfin on va dire au canton latin, parce que le Tessin aussi, ils aiment le basket. Hein, ça fait, quand je jouais d'ailleurs, les équipes tessinoises étaient très très fortes, même quand j'étais en junior, en cadet, ils avaient même battu la sélection vaudoise, le village de Viganello, pour vous dire. Donc il y a cette culture qui n'a pas encore vraiment franchi le Rüschti Graben, et pourtant je pensais qu'avec Nowitzki, justement, mais Nowitzki était aussi un ovni en Allemagne.
Ça n'a pas franchi, j'ai l'impression que ça ne franchira jamais le Rüschti Graben parce que la pyramide n'est pas forcément assez large.
Oui, possible. Il faudrait peut-être commencer à... Je lance un pavé dans la mare, hein, mais pourquoi pas fusionner avec le championnat français, par exemple, vu que ça marche qu'en Romandie. Pourquoi pas, mais parce que voilà, rien qu'à nos pays voisins, France, Italie, les moyens mis dans le basket sont autrement plus grands. La France prenait, à un moment, c'était le deuxième pays du basket. Ce qui produisait le plus d'étrangers en NBA, c'était les Français. Maintenant, ça a commencé à devenir le Canada et l'Australie, gentiment aussi. Mais voilà, c'est surtout une histoire de moyens. Et puis après, si on a des petits moyens, on ne peut pas non plus viser des sommets.
Voilà, régater avec les plus grands. Alors, on a évoqué cette exportation, finalement, des joueurs européens qui sont même dominants par moment, les joueurs africains, dans ce championnat de la NBA. Et à l'inverse, maintenant, c'est le phénomène contraire qui se produit, c'est à savoir que les jeunes Américains issus des universités...
Ils commencent à réfléchir à venir jouer en Europe pour leur carrière universitaire. Parce qu'il faut savoir qu'avant, le chemin pour aller en NBA, il était simple. Hein. Il fallait faire une high school, ensuite il fallait entrer à l'université, se faire repérer par un scout et ensuite proposer son nom à la draft pour être choisi. Et c'était le chemin, il n'y avait que ça pratiquement. Hein. L'Europe change les choses parce que tout d'un coup, on a vu des scouts aller chercher des joueurs européens qui étaient dans leur championnat respectif. Mais il faut savoir que ces joueurs américains qui suivent leur cursus ne sont pas payés. Et certains vivent des fois dans des conditions précaires, alors que ça va être des stars millionnaires d'ici 2 ans, quand ils seront draftés. D'ailleurs, certains se lancent à la draft après 1 an seulement à l'université, alors qu'ils devraient en faire 3 normalement. C'est-à-dire qu'ils vont même pas jusqu'au bout de leur diplôme, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut remplir le frigo. Et là, bah, maintenant, on a un jeune prodige aux États-Unis, un Slovène de 19 ans qui s'appelle Luka Doncic, qui va sûrement être élu meilleur rookie de l'année. Mais quand il est arrivé, il est d'une maturité, parce qu'il a déjà 3 ans en club professionnel en Europe. Et là, bah, y a un peu des polémiques qui se passent autour de ces joueurs universitaires qui disent on en a marre de ne pas être payés. En plus, nos maillots se vendent, mais vu qu'on n'a pas les droits, bah, on ne touche rien. Et puis, bah, Luka Doncic a utilisé les réseaux sociaux pour s'adresser à eux en disant bah, venez jouer en Europe, vous serez payés, des salaires très corrects. En Europe, on peut bien avoir ces 15 000 euros par mois, si on est bon. Et puis, on joue directement avec des adultes. Et là, les joueurs américains commencent gentiment à se poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'aller en Europe, vu que de toute façon, ce que je veux faire comme métier, c'est du basket.
Venir en Europe où il y a des championnats très relevés, vous l'avez souligné d'ailleurs, l'Italie aussi, la France, l'Espagne, quoi qu'il en soit.
La Grèce. Oui, bien sûr, les pays de l'Est, les pays des Balkans. Là dans la discussion du meilleur joueur de la saison régulière en NBA, il y a un Grec et il y a aussi un Serbe. Et ils ont 25 ans à peine les deux, hein, puis ils ont tous commencé dans le championnat européen.
Alors le championnat de Suisse, il reste tout petit, mais c'est pas grave. On assiste quand même à de belles rencontres de basketball.
Bien sûr, et puis Clint Capela, il est passé par le championnat suisse. Hein.
Alors précisément, on va parler quand même de ces deux Suisses qui jouent en NBA. Clint Capela, pour commencer, c'est l'exemple qui a réussi, du joueur suisse qui a réussi. Encore mieux que Tabu Seifolosha.
Mais en fait, justement, Tabu Seifolosha, il est exactement de cette génération de Tony Parker et tout ça, de ces joueurs qui ont ouvert la voie. Et je ne sais pas s'il aurait pu avoir Clint s'il n'y avait pas eu Tabu avant. Tabu n'a pas eu une immense carrière NBA, mais il a eu un rôle important. Il a même joué une finale, hein, on est bien d'accord. Mais Clint Capela, lui, quand il est arrivé, il était déjà NBA ready parce qu'il savait que c'était possible d'aller en NBA. Tabu, vu qu'on a joué ensemble, pour nous, c'était impossible. NBA, il a réalisé une utopie, hein, pour nous. Hein. Et Clint Capela, il était déjà venu avec l'esprit NBA. En plus, il a le physique qui va avec. Donc oui, aujourd'hui, il a un rôle impactant. Il est dans les titulaires d'une équipe qui vise le titre.
Un rôle dominant.
En plus, il est pivot. Il a ce physique qu'on cherche beaucoup en NBA. C'est les longs qui sont mobiles. Il est très mobile, il est impressionnant de mobilité, ce Clint Capela, et il est très important à son équipe, oui.
Yves, c'est le moment clé de la saison NBA. Alors, comment un passionné comme vous suit-il ce championnat ?
Bon, alors, j'ai la chance, avec mes horaires de matinaleux, comme on dit, de pouvoir me réveiller, puis de pouvoir encore voir les matchs en cours. Donc, vu avec le décalage horaire, souvent vers 4-5 heures du matin, les matchs du soir sont dans la seconde mi-temps. Donc. Puis bah, aujourd'hui, il y a aussi cette génération Internet qui change tout, c'est qu'on peut voir les résumés très facilement en images. Avant, c'était plus difficile. Avant, quand j'étais petit, il fallait avoir une chaîne du satellite, il fallait se lever la nuit, ce que j'ai déjà eu fait, il faut le savoir aussi. Quand on est passionné, on compte pas les heures de sommeil, on est bien d'accord. Mais que, voilà, on peut voir les résumés, il y a beaucoup de consultants, des gens qui ont des chaînes sur Internet, sur YouTube, qui font des analyses et tout ça. Donc vraiment, si on veut se passionner pour le basket, on peut avoir toutes les explications et voir toutes les images.
Et si vous êtes un passionné, c'est aussi parce que le spectacle, c'est un basketball plus spectaculaire que le basket européen.
On est bien d'accord. Bon, on dit que le basket américain, la NBA, c'est la guerre des joueurs, et puis le basket européen, c'est la guerre des coachs, c'est la guerre des stratégies. Tandis qu'aux États-Unis, c'est surtout des guerres d'athlètes, et puis bon, aussi des joueurs qui ont des grands QI basket, comme on aime bien le dire. Mais c'est un sport qui est formidablement télégénique. On peut passer par tellement d'émotions en regardant un match de basket, que ce soit les alley-oops, que ce soit les passes dans le dos, voilà. Et ce genre de choses continuent d'alimenter la NBA, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont plus flexibles sur l'arbitrage, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe.
D'où la difficulté vraiment d'associer finalement ce basket américain, ce basket européen lors d'un championnat du monde.
Alors c'est souvent les Américains qui ont le plus de peine à se mettre au diapason en fait. On leur siffle plus facilement un marché au départ, c'est que 2 pas. Aux États-Unis on dit si le gars il a fait 3 pas mais c'est pour nous faire un 360 dunk, on va pas le siffler. Voilà, mais ça, en Europe, on le siffle. Les règles FIBA, c'est celles qui prévalent quand on arrive en Coupe du Monde. Bon, après, ils finissent par rouler sur tout le monde, parce qu'athlétiquement, ils sont tellement forts que voilà. Mais le niveau est en train de changer. Celui qui va être MVP cette année, à mon avis, c'est le Grec, Giannis Antetokounmpo. Celui qui arrive à se gratter les pieds sans se baisser. Tellement il a des longs bras. Donc voilà, c'est... Et c'est, je pense que le basketteur ultime, au final, ce sera quelqu'un qui aura fait du FIBA et du NBA.
Yves, je vous repose encore une question par rapport à la NBA. Vous avez parlé de ce sport spectacle, précisément. C'est ce qui fait toute la différence entre ce basket américain et ce basket européen.
Les athlètes aussi. Hein.
Et les athlètes
Les athlètes. C'est pas les mêmes corps. faut dire la vérité, il y a tellement de moyens en NBA que quand un joueur arrive, s'il est maigrelet ou en surpoids, ou il y aura un entraînement qui sera fait autour de lui pour pouvoir atteindre le meilleur niveau physique possible. Et surtout depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est impressionnant. On sait aujourd'hui qu'un joueur qui sera en NBA, normalement, à moins qu'il ait une hygiène de vie dégueulasse, mais c'est signé son arrêt de mort de faire ça. Maintenant, ils ont des chefs personnels pour s'occuper de la nourriture. Ils ont plusieurs kinés, ils ont des massages particuliers. Ils ont des choses pour relaxer les muscles. Ils font des cryogénisations. Enfin, voilà. On arrive à un sommet du physique que je pense que les joueurs, normalement, entre 27 et 32 ans, ils atteindront le plus haut plafond qu'ils puissent atteindre. En fait, les joueurs NBA, normalement, arriveront à un moment ou à un autre à toucher leur plus haut potentiel.
Parce que 82 matchs par saison, sans les playoffs, hein, faut-il le préciser, c'est énorme.
C'est énorme et c'est aussi une forme d'écrémage. Hein. C'est aussi une forme d'écrémage. C'est triste à dire ça, mais c'est un peu comme les gnous quand ils migrent. Hein. Ceux qui ne suivent pas, ben, ils se font piétiner. C'est la réalité, malheureusement.
Voilà, tout le monde ne peut pas gagner des millions, finalement.
On est bien d'accord. Oui, oui. C'était beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein.
Cap Sport.